Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Patrick, Pierre, Mohamed, Mathieu et notre chef du jour, Louis Amen, qui est le chef propriétaire du restaurant Momen. Je crois que c'est la contraction des deux propriétaires.
Tout à fait.
Louis Amen et votre...
Romain Moreau.
Voilà, Momen. C'est dans le 8e arrondissement de Paris, avec l'un de mes plats préférés au monde, du poulpe, des tentacules de poulpe.
Voilà. Voilà, qu'on est en train de terminer de préparer, qu'on laque avec une réduction de betterave et de vinaigre. Et qu'on va commencer à dresser sur les assiettes.
Donc
pour
ce
vous.
Sera un peu sucré-salé, quoi.
Non, pas tout à fait, un peu plus sur l'acide.
Ah bon, j'ai voilà. Tout faux, ouais. Comme d'habitude. Mais si c'était le contraire, ça ne serait pas normal. Merci beaucoup, Louis, à tout à l'heure pour déguster ces tentacules laqués. Il y a des bandes-annonces qui donnent le sentiment d'avoir déjà vu l'intégralité du film. Et puis, il y a la bande-annonce version Catherine Fraud et Michel Faux qui pensent que pour donner envie de venir les applaudir au théâtre, il faut en dire le moins possible et s'entourer au cas où de lapins. L'Enfant paraît, pièce de l'académicien André Roussin, se joue tous les soirs depuis le 16 septembre au théâtre de la Michaudière, tous les soirs, sauf le lundi. Mais pas de relâche pour Catherine Fraud et Michel Faux qui sont ce soir sur le plateau de C'est à vous. Voilà, des applaudissements moins nourris qu'au théâtre, mais on les fait avec beaucoup de cœur. On va en dire un peu plus tout à l'heure sur cette pièce qui a été créée en 1951, mais qui résonne quand même encore et toujours avec beaucoup d'acuité avec l'actualité, notamment la question du droit des femmes à disposer de leur corps. Juste un mot sur ce teaser qui est très énigmatique et un peu allumé à la fois et qui vous ressemble.
Oui, il y a une absurdité dans la pièce, c'est infernal. Donc, on nous a demandé d'essayer d'évoquer cette étrangeté à travers ces images.
Bon, c'est pas complètement un hasard s'il y a des lapins.
Non.
Mais on peut pas dire pourquoi.
Non.
Pour ça, faut aller voir la pièce.
Voilà, c'est une surprise.
Mais c'est vrai, faut pas trop en dire dans les bandes annonces.
Oui, il faut donner envie, oui.
Voilà, ça donne clairement envie. Je disais que vous étiez allumé, c'est la façon dont vous vous définissez un peu tous les deux, Michel, vous et Catherine. Allumé vraiment ?
Moi, je pense qu'on est allumé, oui.
Ah bon ?
Bien donc.
Ah oui, oui.
Mais allumé par quoi ? Allumé par notre métier. Moi, je suis allumé par mon métier. Ça me plaît. Je cherche la jubilation, je cherche la nouveauté, je cherche, etc. Moi, si je suis animé, c'est par ça.
Et quand vous dites allumé, vous pensez à quoi, Michel ?
Animé, allumé.
Je pense que Catherine a un monde à elle, que c'est ça qui est formidable, comme tous les grands acteurs. Mmh. Elle a des secrets, elle a des mystères, elle est imprévisible, elle est exigeante. Ça. Non, c'est ça qui est bien.
Exactement, la même, vous avez tous les deux la même incroyable rigueur au travail. Vous reconnaissez que vous êtes assez psychorigide, Michel. Ça tombe bien parce que Catherine est précise, voire méticuleuse. À quel point Catherine est méticuleuse ?
Non, mais elle a fait un travail magnifique sur le texte, sur la partition, comme si c'était de la musique, en fait. Et puis, je sais qu'on passe des heures à régler un geste, une façon de s'asseoir, la place d'une chaise. Enfin, non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on travaille bien ensemble.
Mais ça n'empêche pas de s'amuser, vous voyez.
Ah, oui, bien
le
sûr.
Le sérieux du travail est quand même assez jouissif.
D'abord de la contrainte pour beaucoup de liberté. Ensuite, c'est un peu votre porte-bonheur, Michel Faux, non ? Parce que Marguerite... Première collaboration, c'est vous vrai. Avez eu un César. Oui. Deuxième collaboration avec Fleur de Cactus, hop, un Molière. Jamais 203.
Ah, j'avoue.
C'est pour ça, c'est votre trèfle à quatre feuilles.
Ben oui, c'est vrai. Bon. J'espère que je le suis pour lui aussi.
Ouais. C'est une formidable satire survoltée des années 50, cette pièce d'André Roussin. On en parle longuement, mais là, tout de suite, c'est l'heure des infos express de C'est à vous. Mathieu, on révise en musique.
Oui, il paraît que ça aide, et c'est pas nouveau, vous vous rappelez bien sûr de Michel Sardou.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant.
Ah non, voilà.
De façon encore plus concrète, peut-être que certains autour de cette table ont appris leur déclinaison latine avec du Brel.
Rosa, 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 r
Eh bien, en 2022, ça ne change pas. StudyTrack est une application qui propose des chansons pédagogiques en respectant le programme de l'éducation nationale. Il propose à vos enfants de réviser en musique. C'est pas nouveau. Mais les gens de StudyTrack affirment même avoir un rôle à jouer contre le décrochage scolaire. Et si j'en parle, c'est qu'ils ont fait appel à des stars que vos ados connaissent sûrement mieux que nous ici pour réviser les règles de grammaire, par exemple, grâce au rap.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'immigration internationale ne concerne que 3% en augmentation, qu'elle soit clandestine ou légale.
Comme un adjectif, le participe passé se comporte. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.
Des atomes d'oxygène, un atome de carbone. C'est la molécule de dioxyde de carbone.
Génial.
Vous avez entendu, et ça reste dans la tête en plus. Joy Star en prof d'histoire géo, Black M en prof de français, Kobalade en prof de physique chimie, Kobalade qui a même ajouté sur Twitter: les enfants, voici votre nouveau professeur principal. Je trouvais ça assez amusant de me figurer ça quelques semaines après la rentrée. Et pour info, il y a le rappeur Fianso qui a participé aussi en qualité de prof d'histoire géo. Fianso, c'est son nom de rappeur, vous le recevez tout à l'heure en tant que comédien, Sofiane Zermani.
C'est super, non? Vous ne faites pas ça? Vous ne répétez pas en chanson, vous qui aimez bien ça?
Non, moi, je sais que je n'arrive pas à apprendre bêtement. On dit par cœur, je ne sais pas pourquoi on dit par cœur, mais je n'arrive pas à apprendre bêtement. J'ai besoin d'avoir déjà une musique, en fait, parce que pour me souvenir. On se souvient très bien des chansons parce qu'il y a une musique.
Exactement.
Donc, c'est bien de faire ça avec de la musique,
oui.
Moi, je trouve.
Catherine?
Mais je ne sais pas quoi penser de ça.
J'avoue. Je
n'en pensais rien. Je n'ai pas d'avis.
D'accord.
Je suis surprise.
Vous aurez peut-être un avis sur l'info de Patrick.
Oui, moi je vous propose une détox numérique d'une heure et demie tous les soirs. Alors c'est à l'heure de l'émission, ça tombe pas très bien, mais ça a été instauré dans un village du sud de l'Inde, 3000 habitants à peu près. Une heure et demie donc tous les soirs, 19h, il y a une sirène qui retentit dans le village, c'est un village de 3000 habitants, et les habitants sont invités à tout lâcher, tous les écrans, téléviseurs, téléphones, ordinateurs, tout. Et puis il y a une deuxième sirène qui retentit à 20h30 où les gens peuvent se reconnecter. Alors, il paraît que là, donc c'est une idée qui a été mise en place, qui a été étendue dans 5 autres villages, qui a été approuvée par les habitants. Le papier du Times qui nous l'apprend ne nous dit pas quel a été le degré d'acceptation,
ouais.
Et comment est respectée cette mesure, cette détox. Mais bon, voilà, c'est mis en place et ça peut faire école ou faire tache d'huile éventuellement.
Vous êtes accro aux écrans?
Non, pas tellement, j'avoue. Non, je suis un peu...
Oui, voilà. Donc, sirène, pas sirène.
Ouais.
Michel Faux, un avis, s'il vous plaît, Michel.
Non, je sais pas. Moi, je regarde les séries, ça fait partie du...
Ah bah oui, c'est sur un écran.
C'est les écrans.
Ah oui, bah donc une série.
Les séries, ça
rend fou. Bah oui, ça rend fou, c'est très addictif. Émilie?
Moi, je voulais vous montrer un loup. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier sur ce loup? Je ne sais pas si vous allez le voir. Le voilà.
Ah, je l'ai vu. Ah, il est beau.
C'est un bébé loup.
C'est un bébé loup polaire qui est né le 10 juin dernier, non pas dans l'archipel arctique au Canada, mais dans un laboratoire chinois, parce que Maya, c'est un clone et c'est une première mondiale. Les chercheurs ont prélevé un échantillon de peau du louve arctique, qui s'appelait Maya aussi d'ailleurs, et qui ont ensuite injecté dans l'ovule de cette chienne là que vous voyez. C'est donc une sorte de PMA, ce beagle là, c'est l'heureuse mère porteuse. C'est la même technique qui avait été utilisée pour la brebis Dolly, sauf qu'en 1996 pour Dolly, le contexte n'était pas le même, c'était évidemment un exploit scientifique, sauf qu'en 2023, ça résonne, 2022, ça résonne autrement, il y a une urgence climatique, et donc on se dit qu'on pourrait cloner les espèces qui seraient menacées. Le loup arctique s'était menacé par le dérèglement climatique notamment. Donc lutter contre la disparition de certaines espèces menacées. Après, il faut voir avec la question éthique ce qu'on en fait. Est-ce que toutes les espèces qui sont menacées, est-ce que il suffit de les cloner pour les avoir? Après, il faut voir si elle arrive à résister dans la nature. Par exemple, on ne peut pas réintégrer Maya dans son
milieu
naturel. Oui.
Ouais. Elle a plus de milieu naturel, d'ailleurs.
Non, elle n'a plus de milieu naturel.
C'est philosophique.
C'est oui, c'est vrai.
J'espère qu'elle ne pense pas trop.
Oui, qu'elle ne se rend pas bien compte.
J'espère. Mm. Mais peut-être qu'elle se rend compte, allez savoir. L'Arctique, les animaux sont devenus très intelligents.
Ouais. L'Arctique, c'est même pas ce que ça veut dire. L'Arctique.
La pièce maîtresse du bloc-notes, c'est l'œil de Pierre.
«
Sidney Poitier, l'acteur et l'homme, sont parmi les personnages avec le chanteur Harry Belafonte qui m'ont le plus marqué dans mon adolescence et mon enfance. Sidney Poitier est mort en janvier dernier, à 94 ans, juste après avoir fini un documentaire produit par Oprah Winfrey pour la plateforme Apple TV+, encore une série à suivre, qui le propose depuis vendredi. Sa manière de se tenir droit a imposé un rapport d'égalité et même de dignité dans la société américaine des années 50. Il était né très pauvre, de parents très bien, en 1927, en Floride. Il a connu le pire des humiliations racistes. Il a échappé de peu à la police pour rien et au Ku Klux Klan parce qu'il était noir. Et à la fin des années 40, alors qu'il a tout juste appris à lire grâce à un collègue juif au restaurant où il faisait un petit boulot, il a l'occasion de passer un casting.
Walked on a stage, and I turned to page so-and-so, and he opened another script. He was sitting in the audience, and he turned to page. He says, now read the part of John. And I looked, and I saw John, and I said, okay. He said, where are you going? And he was quite upset and angry, and he tossed me out of there and stuff. He said, why don't you just stop wasting people's time and go get yourself a job as a dishwasher or something? That's the moment I became an actor, you see.
I said, I am going to become an actor. And when I do, I'm going to come back and show that man.
La chance va lui sourire, il va tourner avec un certain Mankiewicz, rien que ça. On le verra aussi dans le fameux Blackboard Jungle de Richard Brooks, le premier film rock sur la jeunesse. Dans La Chaîne de Stanley Kramer, il préférera à sa liberté de rester aux côtés de son co-détenu, Tony Curtis. Et ça a marqué et le cinéma et la société américaine. Puis il va enchaîner avec des films décisifs, surtout celui-ci, dans La Chaleur de la Nuit, où Rod Steiger, dans le rôle d'un flic qui doute, assiste à une scène quasi historique et symbolique, Sidney Poitier, détective, face à un planteur blanc et raciste.
Was Mr. Colbert ever in this greenhouse, say, last night, about midnight?
Oh, you could hear a pin drop. That's the loudest silence I've ever seen in a theater. You hear some, you know, and then people looked at each other and stuff.
Black folks went crazy, because they never seen that before. Wow, bam! That never happened on the screen before. He was something else, man.
Eh oui, vous avez vu les personnages qui témoignent. Ils ont tous été marqués par Sidney Poitier, qui leur a donné envie de croire à l'avenir. Il faut voir quelques-uns de ses grands films, dans La Chaleur de la Nuit, bien sûr, mais aussi le fameux Devine qui vient dîner. Dans son portrait, vous le verrez aussi en 63 à Washington, pendant la marche des droits civiques avec Martin Luther King, Harry Belafonte, mais aussi Paul Newman, Marlon Brando, Burt Lancaster et même Charlton Heston. Et puis aux plus radicaux qui lui reprochaient d'être le bon noir dans la société blanche, on pourrait opposer ce témoignage d'Oprah Winfrey elle-même.
At the time, I was getting a lot of flack from the black community for not being black enough, not doing enough black shows. And he sat me down in a corner at that party on my 42nd birthday and he said, it's difficult when you're carrying other people's dreams. And so you have to hold on to the dream that's inside yourself. And know that if you are true to that, that's really all that matters. And that was life-changing for me in that moment. He was telling me about what had happened to him. You know, is Sidney Poitier black enough? Is he good enough? Is he really representing what we want? And how that had made him feel inside, that it took him down for a while.
Sidney Poitier, son héritage, c'est donc depuis vendredi sur la plateforme Apple TV+, c'est très bien et même plus que ça.
Et vous le disiez avec un nombre de témoignages, un prestige absolu. Quincy Jones, Spike Lee qu'on a aperçu.
Voilà, Morgan Freeman, Denzel Washington, plein de gens extra.
Bon, on regarde.
Il avait reçu un Oscar pour...
Devine qui vient.
Non, pas pour. Il a été nominé, mais il avait eu pour le Lys quelque chose.
Le Lys dans la vallée.
Le Lys, presque.
Merci beaucoup. Salut, Émilie, Mathieu, à demain. Nous, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
La plus grande puissance spirituelle de tous les temps, c'est la connerie, avec un C majuscule. Et cela provoque la haine, le mépris, les oppositions insensées entre les hommes. Pour quelqu'un comme moi, qui aspire à l'unité humaine, Évidemment, les temps sont très durs en tant que romancier.
Ce matin, nous suspendons notre temps pour nous tourner vers Dieu, l'écouter et le célébrer. Nous le faisons dans un lieu foisonnant d'activités, un hall du terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
100 000 euros pour vous, demain c'est la journée mondiale du rêve. On va vous faire un virement directement sur votre compte. Si vous appelez maintenant...
J'ai rêvé être oiseau et voir les choses et voir les gens de bien plus loin, de bien plus haut.
Vladimir Poutine perd-il pied face à la fronde des anti-guerres et le refus des jeunes Russes de se faire enrôler dans son armée? Le chef du Kremlin hausse le ton, jusqu'à 10 ans de prison pour ceux qui ne veulent pas aller combattre.
Tous se demandent comment se cacher, comment éviter la mobilisation, comment contourner les bureaux de recrutement militaire, comment sortir le moins possible. Ne pas prendre le métro par exemple, parce qu'il y a des caméras de surveillance.
Partir pour pouvoir parler librement, c'est le choix fait par une partie des opposants les plus célèbres. Il y a quelques jours, l'ex-oligarque déchu Mikhail Khodorkovsky appelait ainsi les Russes, depuis son exil britannique, à la résistance armée pour saboter le régime de Poutine.
Damsgaard face à Saliba, le centre ! Et c'est coupé par Casper Dolberg, qu'on n'avait pas encore vu en ce début de rencontre.
C'est parti pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec Panini. Ensemble, découvrez, partagez et collectionnez le meilleur du football mondial.
C'est encore bien joué, bien tiré par Christensen. Pas de possibilité de frappe. Si !
Et c'est Scott Olsen qui vient sanctionner encore les Bleus.
100% logique, le premier quiz qui ne teste ni votre culture générale ni vos connaissances, mais uniquement votre logique, votre observation et votre bon sens, tout simplement.
Vous pensez que j'ai commis une erreur ? J'accepte votre jugement. J'accepte les critiques qui me sont faites. Je demande qu'on leur foute la paix et qu'ils puissent divorcer et que le juge se prononce.
Alors 100% logique, ça commence tout de suite. La réponse est...
Je pense que la seule chose qui manquait, en fait, c'est que violence conjugale, il y a eu, gifle a été donnée. Et en fait, il manquait légèrement de compassion pour la victime. On parle de l'homme, on parle de ses, oui. ses bons côtés et on parle de la tristesse de la situation. Il y a une femme qui s'est fait gifler. Et on n'en parle pas assez.
Une nouvelle nuit de manifestation en Iran. Que les religieux aillent se faire voir, scande ici la foule. Dans les rues, ils crient mort au dictateur. Les opposants enflamment même des symboles du pouvoir.
Des manifestations violemment réprimées, comme le montre cette scène filmée dans la région de Chahrereï, au sud de Téhéran. En une semaine, selon les autorités, 17 personnes ont été tuées. Pour l'ONG Iran Human Rights, le bilan est d'au moins 50 morts.
Elle attache ses cheveux dévoilés face à des policiers iraniens, avant d'être tuée par balle, 6 exactement, selon des journalistes locaux. Son nom, Hadis Najafi. Elle avait 20 ans, une nouvelle victime de la répression iranienne.
Bonjour et bienvenue dans Envie d'agir, l'émission des femmes et des hommes qui s'engagent pour que le monde tourne dans le bon sens.
Tout commence début juillet, quand il y a une une de Paris Match qui est consacrée au cardinal Robert Sarra. C'est un cardinal ultra-réac, anti-migrant, anti-musulman. Donc à ce moment-là, les rédacteurs en chef s'indignent, particulièrement Bruno Jeudi. Une semaine plus tard, en fait, il est convoqué et il est viré manu militari.
Mais on a quand même l'impression de l'extérieur, hein, mais justement, vous êtes là pour répondre, que c'est un groupe où il faut surtout pas faire de vagues. Quand un humoriste dit un truc qui déplaît, il se fait virer. Quand un écrivain écrit un livre, c'est le cas de Guillaume Meurice,
et qui
l'écorne un petit peu Vincent Bolloré, le livre est suspendu.
Mais j'aime bien le proverbe, le chien aboie et la caravane passe.
C'est un de mes proverbes préférés.
Ah, on est d'accord.
Ah oui, j'adore.
Vous avez entendu la critique, moi je l'ai lu, je l'ai entendu. Laurence Ferrari, c'est le visage sympathique des fachos. Vous avez réagi quand vous avez entendu ça?
Comment vous réagiriez si on disait ça de vous, Léa?
Watsuda, la moto est en flamme. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il s'en est aperçu? Ça doit commencer à chauffer sérieusement au niveau des bottes.
Les Italiens votent pour les législatives, un scrutin qui pourrait déboucher sur deux nouveautés. Pour la première fois, un gouvernement d'extrême droite pourrait se former et être dirigé par une femme, Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni, âge 45 ans, slogan Dieu, patrie, famille.
Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du migrant et du réfugié. À cette occasion, le pape François nous invite à construire l'avenir ensemble.
Nouveau drame migratoire en Méditerranée, mais cette fois-ci c'est au large de la Syrie qu'une embarcation de fortune a fait naufrage. À son bord, 150 personnes, principalement des Libanais, mais aussi des Syriens et des Palestiniens. D'après le dernier bilan, 94 personnes ont perdu la vie.
Voilà pour le vu du jour. Charles Jacquet est sous-secrétaire d'État à la famille dans la France d'après-guerre. Et il vient de faire triompher ses valeurs en obtenant la fermeture des maisons closes et l'augmentation des peines sur les délits d'avortement. Mais ses convictions vont être très sérieusement bousculées quand il apprend la même journée que la secrétaire de son fils est enceinte de lui et que sa femme Olympe attend un enfant.
Charles, je suis enceinte.
Quoi ?
Oui.
Mais de qui ?
Non, de qui ?
De moi ?
Mais évidemment de toi.
Je t'ai fait un enfant, moi ? À ton âge ?
Je suis enceinte de 2 mois et demi.
Alors ça, c'est beaucoup. Hein. Ça, c'est vraiment beaucoup pour la même journée.
Ben oui, ça fait beaucoup parce que tout d'un coup, votre personnage se retrouve totalement empêtré dans ses contradictions entre son combat politique et puis sa vie privée. Oui. C'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Et ça, c'est intemporel. Ça traverse le temps. Non, mais c'est vrai. C'est ça qui est intéressant, c'est que la pièce, elle se passe après la guerre et avec cette histoire de fermer les maisons closes et puis on s'est rendu compte après que c'était une bêtise parce que du coup, les prostituées étaient dans la rue. Et d'ailleurs, Marthe Richard avait voulu renverser l'histoire, mais elle n'y est pas arrivée. Et puis, cette histoire, ça parle de l'avortement, ça parle de la Russie aussi, en fait. Donc, il y a plein de choses qui résonnent avec aujourd'hui.
Et c'est dingue parce que ce fameux Charles Jacquet va trouver tous les arguments pour finalement se convaincre lui-même que l'avortement est à envisager, que c'est presque pour sauver la France qu'il s'agit de ne pas garder cet enfant.
C'est ce qu'on appelle la langue de bois, quoi, en fait.
Mais qui pratique à la maison, quoi.
Bien sûr. À la ville comme à la Seine, oui, bien sûr.
C'est une grande modernité, Michel Faux le disait, Catherine, sur la vision politique, c'est-à-dire sur ces hommes politiques qui, très très vite, ont du mal à être fermes, à camper sur leur position, sur les questions sociales. Évidemment, quand on assiste aux États-Unis à ce formidable bond en arrière sur l'avortement, forcément ça résonne et ça nous inquiète, ça vous inquiète ?
Oui, enfin c'est incroyable. Ce qu'il y a dans cette pièce est assez incroyable vu ce qui se passe aujourd'hui. Le retour en arrière sort pas mal de choses et voilà. La seule chose, si vous voulez, c'est que dans cette pièce, c'est vraiment un motif à immense rigolade. C'est effrayant. Mais à tel point que vraiment le rire est féroce. Et ça, c'est une écriture, moi j'avoue, qui est géniale. Après effectivement, on peut discuter des débats politiques, etc. Tout est dans cette pièce. Mais les personnages sont des sortes de clichés d'eux-mêmes qui sont là. C'est du guignol pour adultes, ouais. Honnêtement. À mon avis, les enfants aussi. Mais enfin, c'est énorme.
Mais il donne une grande raclée à la bourgeoisie française, à la France, quoi, en fait. C'est assez audacieux, d'ailleurs. D'ailleurs, à l'époque, c'est bizarre que la pièce avait marché. Et les gens rient aujourd'hui sur le texte, quand même. Donc ça veut dire que ça a traversé le temps comme un texte classique, en fait.
André Roussin est un très très grand auteur et merci de le ressortir. Je crois que la pièce n'avait pas été jouée depuis 40 ans. Hein.
Dans les années 80, ils avaient remonté la pièce, mais ils avaient essayé de la moderniser. Ouais. Nous, on a voulu vraiment monter la première version qui est vraiment après-guerre. En fait.
Oui, donc André Roussin, c'est très bien. La pièce est féroce, les personnages sont féroces. C'est un concentré de méchanceté, ce qui est dit à la fois par Olympe et par son mari. Alors, ils sont odieux, ils sont hypocrites. Ils sont misogynes, très misogynes.
Sûr,
terrible.
Et elle, elle est démagogue, elle aussi. Voilà. C'est un concentré.
Ils sont tous dans l'arrangement. Ouais. Il y a un cynisme.
Dans les compromissions totales.
Oui, 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 c'est très intéressant. Oui.
Mais les enfants aussi, dans la pièce, ils sont terribles.
Ah ben, les enfants aussi. Alors, on va voir, tiens, un dialogue de Olympe et de sa fille dans une version très ancienne, c'est celle de 64. Gaby Morlaix, qui avait créé le personnage d'Olympe en 1951, le reprend en 64, toujours au théâtre des Nouveautés, et on a une captation de ça.
Ah,
à ce moment-là, Gaby Morlaix, elle a 71 ans. Et elle annonce à son mari qu'elle est enceinte. Hein. Gaby Morlaix, on regarde.
Génial.
Oh, ma pauvre petite, quelle nouvelle! Jamais je me serais attendue à un coup pareil. Un enfant. Eh bien, quand ton père va apprendre ça, et comment le lui apprendre? Enfin, te rends-tu compte, ma petite, c'est une catastrophe. Mais tu as l'air de prendre ça légèrement.
Mais maman, tu me parles exactement comme si j'étais la coupable. C'est pas moi qui suis enceinte. C'est toi.
Mais je le sais bien que c'est moi. Tu n'as pas besoin de me mettre les points sur les i. Et puis d'abord, je te prie de surveiller tes expressions. Je ne suis pas coupable parce que j'attends un enfant.
Erreur de notice, c'est Gisèle Casadesus, effectivement, qui a repris la fois d'après, en 67.
Voilà. André Luguet avait gardé son rôle. Et c'est Martine Pascal qui est sa propre fille qui jouait sa fille.
Et ben voilà, donc Gisèle Casadesus, qui n'était pas jeune non plus aussi à ce moment-là, pour jouer la mère enceinte. Et cette pièce, à l'époque, Michel Faux, a été jouée dans les années 50 des centaines de fois.
Ah mais ma grand-mère, pardon.
Vas-y, vas-y.
Ma grand-mère l'a vue en 52 ou 3.
Elle avait Gaby Morlaix.
Gaby Morlaix, ils l'ont joué à Rochefort-sur-Mer, là où enfin, il y a une partie de ma famille. Et vraiment, ma grand-mère en parlait tout le temps de ce spectacle.
Mais en disant quoi? Ça l'a marqué parce que justement, ça bousculait des valeurs qui les cadenassaient.
Parce que je crois que la pièce a créé un choc. Pour être un succès comme ça, c'était énorme. Ouais. Et les gens ont énormément ri, enfin voilà, en province.
Il faut se rendre compte que parler d'avortement dans les années 50, et même dans les années 60, c'est pas des choses qu'on voyait souvent au théâtre de boulevard.
Il a pu faire jouer cette pièce parce qu'il y avait Gaby Morlaix et André Luguet, parce que les directeurs étaient très dubitatifs sur la
pièce. Très frileux même au début. Hein,
il avait écrit une pièce, je crois en 48, avec Pierre Freinet, qui s'appelle Les œufs de l'autruche, qui parle de l'homosexualité.
Absolument, c'est vrai.
Ah ouais. Mais c'est-à-dire que s'il est peu joué, André Roussin, c'est qu'on lui reproche une audace aujourd'hui en 2022 qu'on ne lui reprochait pas dans les années 50.
Oui, il y a eu des préjugés quand même sur le théâtre de boulevard.
Mmh. Il était plus à la mode.
C'est une histoire de mode.
Parce que c'était
comme Barry Agredi dans les années 70-80. C'était considéré avec un peu de mépris.
Oui.
C'est dommage parce que... Enfin, je veux dire, moi j'ai joué par exemple Oh les beaux jours de Beckett, et le rêve de Beckett au début, c'était de le faire jouer par Jacqueline Maillan. Vous voyez, il y a des choses parfois qui peuvent vraiment se connecter, alors que souvent on les déconnecte.
Et Brecht voulait que Gaby Morlaix joue Mère Courage aussi.
Oh.
Voilà.
Et ça, c'est intéressant.
Alors, c'est aussi votre passion pour les chanteuses qui vous réunit. Arte diffusait mercredi dernier le film qui vous a amené ensemble sur un plateau pour la première fois, l'extraordinaire Marguerite.
C'est vraiment la musique d'un homme qui n'a jamais été heureux en amour.
Merci.
Elle dit merci.
Je rappelle que Marguerite est toujours disponible en replay sur Arte. Michel, le rôle du professeur de chant, il était écrit et taillé pour vous par Xavier Giannoli.
Oui, donc après, c'est très difficile d'accepter d'autres rôles. Non, mais c'est vrai, après, j'ai dit, moi, je veux des rôles comme ça, mais j'en ai pas tellement eu. En fait. Oui, oui, bien sûr, c'était magnifique. Oui, bien sûr.
Il paraît, Catherine, j'ai lu quelque part que dans la voiture sur la route des vacances, votre père chantait faux pour énerver votre mère.
Oui, c'est vrai. Tout à fait.
Il réussissait.
Ah, il énervait ma mère. Ah, elle râlait. Ah, c'est pas possible. Et derrière, nous ricanions, comme les gamins. Ah.
Et votre papa, quand il a vu.
Il chantait très bien faux.
Il chantait très bien faux.
Ah oui, il s'amusait à chanter faux, parce qu'il chantait très juste, mon père.
En revanche, ça l'a énervé quand il a vu Marguerite. Il a dit « Tout le monde va croire que tu chantes faux ».
Vous avez entendu ça?
Eh oui.
Ben oui, il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Tout le monde va croire que tu chantes mal ».
Comme une casserole.
Voilà. Heureusement, vous avez profité des Césars pour rétablir la vérité.
Ah. Catherine Fraud.
Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur.
Ce César, je le dois à Marguerite elle-même. Enfin, je dirais plutôt à celui qui l'a inventé. Merci, Xavier. Je me souviendrai longtemps d'avoir répété en chantant faux à tue-tête dans ma cuisine. Oui, Marguerite chante faux, mais... elle a un tel désir de beauté que c'est une artiste. Je remercie mes partenaires de jeu, Michel Faux, André Marcon et Denis Npunga. Je vous remercie beaucoup de tout mon cœur. La la la.
Ah, c'est bien. Vous auriez aimé être chanteuse dans une autre vie?
Ah oui.
Oui.
Ah, j'adore chanter. Je chante très bien.
On l'a vu. Tu chantes dans ta loge?
Ah oui, oui, tous les soirs, ouais, ouais. Je me fais la voix. J'aime bien chanter. Ah oui, si j'avais...
Mais qu'est-ce que vous chantez, par exemple?
Ah, je peux chanter plein de choses. Ah non, je chante L'abeille et le papillon de Henri Salvador. Mmh. Mais je ne vais pas vous chanter.
Non. Non, mais ça avait l'air de... Vous aimez quand Catherine chante dans sa loge avant?
Ah, bah oui, parce que ça veut
dire... Oh, c'est mignon, quoi. Ah, bah oui, on va pas en faire non plus.
Qu'elle est de bonne humeur, c'est bien.
Catherine, vous étiez très juste dans ces notes. Contrairement à Catherine, Michel, vous aimez montrer votre goût pour les fausses notes.
On me dit que le destin se moque bien de nous. Il ne nous donne rien qu'il nous promet tout. Avec le bonheur d'avorter demain. Alors on tend la main, on se retrouve à fou. Pourtant, à quelques mois.
Alors Michel, on ne sait pas si Carla Bruni aura apprécié, mais en tout cas, ça demande un sacré talent pour amener le public des Molières au fou rire. Parce que toute la salle, là, c'est un grand... Les sourires...
Oui, souvent, c'est sinistre.
Oui, un petit peu. Pas toujours.
Mais ça faisait partie d'un spectacle, d'une revue que j'avais fait, donc c'était totalement... J'étais dans mon univers, je réfléchissais pas.
Oui, c'est pas Gisèle Casa dessus, hein, contrairement. C'est bien vous.
Et d'ailleurs, les divas et les tragédiennes vous fascinent. Michel, plus jeune, vous faisiez combien de kilomètres pour aller les voir? Est-ce que j'ai la bonne réponse?
Ah oui, je sais pas, beaucoup de kilomètres. Moi, je faisais du stop même, parce que ça coûtait très cher, la place d'opéra. J'allais au Festival d'Orange, et puis je suis allé aussi à l'étranger. Je faisais du stop pour payer la place et l'hôtel, etc. Oui, bien sûr. Mais je sais pas combien de... Vous avez quoi comme...
Je lis 50 kilomètres.
Ah bon?
Ouais.
C'est pas beaucoup.
C'est pas mal quand même.
Je fais plus.
Plus?
Ouais. Non, stop, je faisais du stop.
Des belles soirées.
Stop ou encore.
Vous jouez souvent, Catherine, des personnages qui font rire à leurs dépens.
Ouais.
C'est le cas un peu d'Olympe, c'est le cas d'Odette Tout le monde, c'est le cas de Yolande,
de Marguerite.
C'est des personnages auxquels personne ne s'intéresse, mais qui ont un cœur gros comme ça, et ça, vous les adorez.
Oui, mais c'est triste à la fois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, si vous voulez. C'est assez curieux. C'est assez curieux, ça me questionne vraiment.
Vraiment?
Oui, parce que je trouve qu'il y a une tristesse là-dedans. Mais il y a une tristesse, mais il y a aussi une clownerie terrible. Ouais. Et donc, je me suis attachée à ces deux mouvements mêlés. Je me suis vraiment attachée. J'ai trouvé qu'il y avait... C'est comme s'il y avait un os à ronger là-dedans, vous voyez? Quelque chose à partager avec le public, en fait.
Entre la clownerie et la tristesse que dégagent ces personnages.
Oui. Là, il y a une solitude, il y a quelque chose de pathétique, il y a... Oui. Et je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là. Je ne sais pas.
L'enfant... Lorsque l'enfant paraît, attention, il ne faut pas que je me trompe sur le titre, c'est depuis le 16 septembre au Théâtre de la Michaudière, Catherine Fraud, Michel Faux, et on hurle de rire toute la pièce.
A priori, c'est parti pour.
Oui, c'est là... formidable. C'est toujours très impressionnant d'entendre des gens qui ne se connaissent pas, qui rient ensemble au même moment. C'est quand même magique.
À personne ne rit en décalé.
Non, il y a toujours.
Toi, oui. quand tu viens. De...
Oui, il y a toujours des gens qui comprennent à retardement, quoi. C'est mon cas.
Mais on reconnaîtra votre rire.
Hein. Exactement, lorsque je viendrai au théâtre de la Michaudière. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. C'est l'heure du vu, pas du tout, de Zoé Bruno, GTA 5. Et puis on retrouve Sofiane dans un instant à la table dînée de C'est à vous.
GTA 5.
C'est ton week-end avec enfant ?
Ouais.
Et pourquoi tu viens pas avec nous dimanche ? On fait un barbecue chez les copains.
Ah, oh, j'adorais ça, les barbecues avant. Mais non, ça a failli me tuer.
J'ai faim, hein ? Comme toujours. Alors ?
Ouf !
Ouf !
C'est bientôt prêt ?
Oui. Hé, pep, patouche. On attend les grillades, hein, sinon c'est pas très sympa pour ton frère qui se tape tout le boulot. Hein ? À la fin, la godue.
Oh. Ah, mais ça va prendre 3 heures.
Mais tiens, t'as qu'à prendre ça en attendant.
Merci. C'est quoi ?
Bah, t'occupes, ça se boit comme de l'eau. Ah,
santé.
Mais c'était pas de l'eau. C'était un cocktail gin sur eau. Alors avec la grillade qui tardait, moi j'ai failli tourner de l'œil. J'ai tapé dans les bols apéro, j'ai gobé un lupin. Tu sais ces petites fèves là que j'adore ?
Ouais, je connais. J'en sers jamais, je trouve que ça a un goût de salive.
Ah. Petit toast. Alors, juste, je voulais... Chut. Viens là, on fait un toast, Zoé.
Oui. Oh. Et un toast, et pourquoi ?
Mais je sais pas, ça m'essoufflait.
Bon, qu'est-ce que t'as encore fait, toi ? Pourquoi t'es toute rouge ?
Au feu !
Au feu, carrément. Ah oui, c'est l'art du drame, quoi.
Il a envoyé ma mère chercher une carafe d'eau.
Il y a le vermina d'Eduardo qui est en flamme. Mais qu'est-ce que t'as, toi ? Ben, bouge-toi ! Oh là ! Oh ! Arrête !
Il m'a fait la manœuvre de Heimlich, elle m'a pété 2 côtes.
Si je la connaissais pas, je pourrais penser qu'elle y prenait du plaisir. Hein.
Ouais.
Mais je comprends toujours pas pourquoi tu veux pas venir avec nous dimanche. Hein.
Arrête, tu me fais hésiter. Ah non. Dès que je sens la grillade, j'ai l'impression que je vais mourir. C'est con, hein ? J'étais à ça de retourner à un barbecue.
Catherine, Michel, bienvenue à la table de C'est à vous. Ravie de vous présenter un artiste qu'on adore tous ici à C'est à vous, autant quand il rappe que lorsqu'il joue la comédie, Sofiane Zermani. Salut, chère Sofiane.
Salut, bonsoir.
Bravo pour le carton absolu que vous faites sur Netflix avec Sous-emprise. L'un des films les plus regardés dans le monde actuellement. Numéro 1 dans 39 pays et dans le top 10 de 89 pays. Vous y incarnez un champion d'apnée, un sport auquel vous a initié Stéphane Mifsud, recordman du monde d'apnée statique. On est ravis de vous accueillir tous les deux. Bertrand restera en apnée jusqu'à la fin de l'émission. Et il va battre le record. Nous, pendant ce temps, on dîne grâce à Louis Amen, qui a donc cuisiné le propriétaire du restaurant Le Momen dans le 8e arrondissement de Paris. Et donc des magnifiques tentacules de poulpe à la betterave.
Exactement. Donc on rentre dans l'automne, donc on a voulu travailler la betterave, le tentacule de poulpe qu'on a grillé, qu'on a laqué avec ce jus de betterave que vous voyez dans l'assiette, qui est un petit peu acidulé au vinaigre. Des petits pickles à droite, par-ci, par-là, pour réveiller un peu le palais. Et puis avec un houmous qu'on a ajouté aussi de la betterave.
Voilà, merci pour beaucoup, Louis. Non, mais c'est tout à fait dans le thème. Vous auriez pu les pêcher, ces poulpes.
Totalement. Ouais.
Exactement.
En l'occurrence, on peut parler de chasser.
Excusez-moi.
Chasse.
Vous chassez le poulpe.
Je rigole.
Merci beaucoup, cher Louis. Pascal est donc un apnéiste hors pair. Lorsqu'il doit ralentir pour des raisons de santé, mais il pousse celle qui est l'amour de sa vie, Roxana, à battre tous les records à sa place. Fascinée, elle va plonger sans limite dans une discipline qui est aussi dangereuse que la relation sous emprise qu'elle subit avec vous. Il y a au moins 3 bonnes raisons d'aimer sous emprise et c'est Mohamed qui nous les dévoile.
Oui, j'ai l'honneur de le faire ce soir. La première raison d'aimer sous emprise, c'est que j'ai adoré vous détester, Sofiane, dans ce film. On est bousculé, troublé par votre personnage, cet entraîneur jaloux, possessif et violent. Vous êtes extrêmement convaincant dans ce rôle de pervers narcissique. À travers ce rôle, on comprend très bien comment naît une relation toxique, le mécanisme de l'emprise, comment le personnage interprété par Camiro, pourtant intelligente, forte mentalement et talentueuse, peut être manipulée. Aucune femme n'est en fait à l'abri du phénomène de l'emprise. La deuxième raison, c'est la photographie. Le travail du chef opérateur Thomas Hardmeyer est très impressionnant. Les jeux d'ombre s'ajoutent à l'angoisse que l'on ressent pour cette femme qui se retrouve complètement prise au piège, sans oublier les séquences aquatiques qui m'ont rappelé Le Grand Bleu. J'ai pas fait original, où l'on se retrouve sans se rendre compte à retenir son souffle. On est littéralement sous apnée. La troisième raison, c'est votre façon de repousser les limites, Sofiane. Vous réalisez vous-même toutes les scènes d'apnée, vous n'avez pas eu recours à une doublure, vous êtes descendu à 31 mètres de profondeur et pourtant, vous n'aimez pas la mer. Qu'est-ce que cela aurait été si vous aviez été un bon nageur? Vous avez beaucoup travaillé avec Stéphane Missud et ça se voit à l'écran et c'est une réelle réussite. Toutes ces bonnes raisons font qu'aujourd'hui, vous êtes numéro 1 dans le monde sur Netflix et c'est mérité.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. En réalité, c'est pas que je n'aime pas la mer ou je n'aimais pas la mer. Je ne la connaissais pas. Et je pense que je l'ai rencontrée avec les meilleures personnes pour me la présenter.
Avec Stéphane notamment, on y revient dans
Stéphane
un instant.
Stéphane Missud et toutes ses équipes. Et toutes ses équipes parce qu'il y a eu énormément d'amour. C'est une super aventure humaine en réalité qu'on vient vous raconter ce soir.
Ben oui. Juste quand on vous a proposé le rôle, ce qui vous a d'abord accroché, c'est le prénom de ce personnage, Pascal.
Non. Un c'est peu. Tout à fait naturel de m'appeler Pascal, j'adore ça.
Non, mais vous avez dit, tiens, j'ai une tête de Pascal, moi.
Ça peut passer, si le réalisateur le pense, et pourquoi pas.
Mais parce que c'était loin des rôles qu'on pouvait vous proposer à vos débuts. Là, on est complètement...
Ce qui me plaît, c'est le contre-emploi. S'il n'y a pas de défi, s'il n'y a pas de danger, c'est pas drôle. Donc,
ce sale type, c'est un contre-emploi.
C'est complètement un contre-emploi. C'est l'anti-Sofiane, il faut le savoir. Et en réalité, ouais, j'aime m'éloigner de ce qu'on sait de moi dans la musique, j'aime m'éloigner de l'image qu'on a de moi en tant qu'artiste de musique. Et puis c'est ça, de relever des défis, c'est de proposer autre chose en réalité. Donc, que ce soit dans Hors Saison avec Marina Hans et Jean-Hugues Anglade, où je joue un policier, là, dans Sous-Emprise, où je joue un apnéiste. C'est juste...
Enfin, un apnéiste, pervers narcissique, toxique, qui ne supporte pas que ses records soient battus par une femme.
Un apnéiste.
Bon, comment vous vous êtes glissé dans la peau de ce personnage ultra toxique qui fout les jetons, hein, très honnêtement.
Par la construction avec ceux qui m'entouraient. Donc évidemment, dans toute la relation amoureuse, ça a été le feeling et le naturel avec Camiro, qui interprète le rôle de Roxana Aubry, et avec lequel on a eu un feeling super naturel sur le plateau dès le début. Ça a été très fluide. On s'est mis à discuter, à échanger, à passer du temps ensemble. On a été très proches pendant tout le tournage. En ce qui concerne la préparation physique et sous l'eau, je pense que j'ai eu les meilleurs pros à ma disposition. Et en fait, ils m'ont donné envie d'aller sous l'eau. Elle m'a donné envie de jouer ce mec, etc., etc. Et donc, les gens qui étaient autour de moi m'ont donné envie de créer ce personnage et on l'a construit ensemble en réalité.
Stéphane, vous êtes apnéiste statique. Il joue le rôle d'un apnéiste no limit. La différence, c'est...
J'ai le record du monde d'apnée statique et il appartient à la France avec 11 minutes 35, mais je fais toutes les disciplines. Je suis descendu à 170 mètres de fond, ce qui correspond à peu près à ce qui se passe dans le film.
170 mètres, il faut se rendre compte.
Ouais.
J'ai 70 mètres, il faut se rendre compte.
Et donc
ce que je voudrais dire par rapport à Sofiane, parce que je suis là pour ça en fait, pour expliquer que les gens comprennent ce qui s'est passé. Parce que, ouais, on le voit sous l'eau, on voit des choses, mais je suis arrivé à Paris tout à l'heure, imaginez la tour Eiffel, on vous dit, monte là-haut, je te mets un filet dessous, tu risques rien, saute. En fait, c'est ce qu'il a fait. Tous les jours, pendant 3 mois, il a sauté. Parce qu'il était en confiance, parce qu'il a su me faire confiance. Il n'est pas devenu un apnéiste en 3 mois, mais il a fait des choses d'apnéiste. C'est-à-dire qu'il a réussi au niveau mental à te dire, OK, là, je risque ma vie, je ne suis pas chez moi, ses réflexes d'humain lui disaient n'y va pas, mais il y allait. Et ça, je peux vous dire, j'entraîne des forces spéciales, j'entraîne des super apnéistes ou des débutants, j'ai rarement vu ça.
Merci mon ami, merci mille fois.
Vous arrivez à tenir combien, vous, en apnée?
Oh, je ne suis même pas allé dans des records, mais on peut très bien vivoter à 3-4 minutes, c'est cool.
C'est énorme, 3-4 minutes, non?
Ouais, mais c'est surtout... La première fois que je l'ai vu, le réalisateur me demande de le tester. Je ne connaissais ni le rappeur, ni l'humain. Et donc, on arrive sur mon bateau et OK, on va à l'eau. Et là, il est parti du niveau zéro. Mais quand je vous dis zéro, c'est que...
C'est quoi le niveau zéro?
Bah, c'est quelqu'un qui regarde les algues et qui te dit « Oh frère, elles sont vivantes, elles bougent !» Et donc, il n'avait même pas un cousin par alliance qui avait mis une paire de palmes. Donc, et là, je fais un petit film. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis obligé de faire mon compte-rendu au réalisateur qui me dit « Bon, ben, ça ne va pas le faire. » Je dis « Oui, il doit faire une course de Formule 1 dans 2 mois. Et aujourd'hui, il fait sa première leçon d'auto-école. Peut-être que c'est possible. » Et là, on a discuté vraiment. C'est là où il s'est abandonné et qu'il y a un vrai échange humain. Et il m'a fait confiance et il est devenu tous les jours, je lui dis arrête, saute, abdos, lombaires, pompes, trucs. Il est devenu un physique de dingue et puis le mental qu'il a, qu'on le connaît parce que c'est un vrai caméléon, il a réussi à se métamorphoser pour entrer dans ce personnage.
Stéphane, on va quand même parler de vous pendant une minute trente, hein, vous l'avez dit, record mondial, 11 minutes 35, premier humain à dépasser les 10 minutes d'apnée. On va voir quelques images. Je voudrais que vous nous disiez, c'est la préparation, votre préparation. Vous êtes en piscine et je voudrais que vous nous décriviez ce qu'on va voir et aussi ce qu'on va entendre là, dans ces quelques secondes. Et voilà, et vous y allez.
Ouais, nous, apnéistes, on a réussi à métamorphoser un peu son corps pour être de plus en plus souple. En gros, plus on met de carburant dans une voiture et plus loin on peut aller. Et donc, on assouplit notre cage thoracique.
Regardez ce que ça donne. Vous voyez, ma cage thoracique est très souple.
Et du coup, avec cette souplesse, on a mis au point un système de pompe à vélo avec la bouche qui fait qu'on arrive à stocker de l'air pour gonfler. Il y a 2 jours, je faisais encore avec des médecins, on arrive à plus de 10 litres là où je devrais avoir 5 litres.
Donc, là, vous stockez de l'air, là, c'est ça?
Ouais, bah regardez, hein. Regardez mes poumons qui sont surtout dans le dos.
Oui,
regardez.
Vous allez voir se gonfler?
Ah bah là, oui, je pense. Ouais.
Est-ce regardez. Qu'il y a une caméra dans votre dos? Ouais.
Je gonfle. Et là, je carpe.
Oh ah oui, c'est incroyable. Ouais, c'est
voilà.
Comme si donc, vous aviez un airbag dans le dos, là, on l'a vu. Ce
ouais, on arrive à quasiment 12 litres de capacité pulmonaire. Et Sofiane, il est rentré là-dedans où il ne connaissait rien et il doit simuler des carpes, des trucs, et il a tout compris. Et
c'est ah oui, ça il fait exactement le même exercice.
C'est ça qui est incroyable.
On non, y mais... croit à 200% que vous êtes apnéiste.
Moi, je suis en copycat. Alors, comment on fait montre... C'est super, c'est ça, voilà. Mais la vérité, c'est que c'est très bien ce que vous avez dit. On va recentrer rapidement sur Stéphane. C'est juste un champion hors norme. Qui a une vie hors norme, une équipe et un amour de la mer et de la nature en règle générale et de l'écologie et cette manière de faire découvrir à tout le monde son monde. C'est juste un humain en or, en fait. Et ce qu'il racontait, c'est la vérité. On s'est retrouvés sur un bateau une après-midi. Il ne savait pas ce qu'il devait m'apprendre. Je ne savais pas ce que je devais apprendre. On a fini avec un plat de pâtes. On a terminé au large. J'ai mis des palmes pour la première fois. On allait dans la flotte. Et voilà, et on s'est fait confiance et on a donné le maximum.
Bah, ça donne franchement un film qui est criant de vérité, quoi.
Ouais. Humainement, moi, je ne suis pas réalisateur, mais humainement, on a vécu des choses incroyables. Il faut savoir que sous l'eau, il a fait des choses incroyables, mais surtout, ça a été tourné d'une manière incroyable. On a fait des plans... alors, j'ai la chance d'être sa doublure sur les scènes un peu profondes, parce que quand c'était trop répété à trop grande profondeur, j'ai fait des journées à près de 117 plongées dans les 40 mètres de profondeur. Donc, c'était très engagé. On a tous tout donné pour ce film. Alors, ça reste une fiction, mais... Il est bien réel et ce qu'il a fait, c'est quand même magique.
Sous-emprise, c'est sorti le 9 septembre sur Netflix. Bravo, merci à tous les deux. Et puis je rappelle que vous êtes engagés pour la dépollution de la mer avec votre fondation, l'Odyssée Bleue.
L'Odyssée Bleue. Quand voilà. On aime les choses, on les protège.
Exactement. Merci beaucoup à
tous. Si je peux ajouter un mot, suivez-le sur Instagram. Allez voir ce qu'il fait. C'est juste incroyable, extraordinaire. Et on embrasse toute l'équipe, on embrasse Gaëtan et tous ceux qui nous ont aidés parce qu'on les aime du fond du cœur. Voilà.
Voilà.
Merci à vous.
Le succès qu'on a raconté ce soir. On conclut avec l'apnéiste Bertrand Chamerois. Vous pouvez respirer.
Je touche uniquement le fond, mais je respire. Buonasera a tutti. Oui, je m'adapte. À la une de ce 26 novembre, cachez les enfants, il est de retour. Silvio Berlusconi ou sa statue de cire du musée Grévin qui s'est échappée ont voté hier pour les élections législatives en Italie. Le résultat, Patrick en parlait dans son édito tout à l'heure, la victoire de Giorgia Meloni du parti Fratelli d'Italia, que toutes les chaînes info s'accordent à qualifier comme ça.
Il est 7h, les titres du journal de Cadi, raz-de-marée donc de l'extrême droite en Italie.
L'Italie sur le point de basculer à l'extrême droite.
L'Italie bascule à l'extrême droite, un parti héritier du fascisme.
Premier chef de gouvernement d'extrême droite depuis l'après-guerre.
Extrême droite fasciste ou post-fasciste pour l'ensemble des chaînes info. Enfin non, il reste CNews.
CNews, il est 7h, bienvenue à tous à la une ce matin, la droite qui l'emporte largement en Italie.
Eh hey les gars, vous attendiez quoi? On est sur CNews, elle est de droite, pas plus. Alors ouais, faites pas cette tête, c'est peut-être un oubli, ça arrive le lundi matin, on n'est pas bien réveillé, à moins qu'il ne s'agisse d'autre chose, parce que vous connaissez le dicton, le malheur des uns...
La coalition des droites menée par Giorgia Meloni est arrivée en tête cette nuit. On va regarder les résultats ensemble. Son parti Fratelli d'Italia devient le premier parti du pays dans le détail.
C'est peut-être ça. Je précise qu'il s'agit d'un trucage, évidemment. Retour en France, c'était le jour pour BFM.
C'est l'événement politique ce matin sur BFM TV et RMC.
Elisabeth Borne, invitée exceptionnelle de BFM TV et RMC.
Elisabeth Borne, invitée exceptionnelle d'Apolline de Malherbe. Aujourd'hui, à 8h15.
Wow, cette musique. Événement intergalactique. Elisabeth Borne a choisi BFM pour répondre en exclusivité à toutes les questions. Vraiment, toutes les questions qui foutent le lundi matin une patate d'enfer.
Question, on va parler budget, retraite, impôts, pouvoir d'achat, salaire, pénurie, sécurité.
Ça fait beaucoup de questions. Effectivement, trop peut-être pour Elisabeth Borne. Elle a beau être première ministre, un lundi matin, ça reste un lundi matin.
Vous demanderez des efforts de quel ordre? Vous savez pas encore? Vous allez discuter avec eux?
Ouais.
Mais ils mettront la main à la pâte.
On peut tous constater que, effectivement...
Qu'est-ce qu'il fait s'il signe pas? Il a plus d'électricité?
Enfin...
On serait pas obligé de demander aux Français d'attendre avant d'allumer le chauffage?
Alors...
Peut-être qu'elle gonflait ses poumons, tout simplement. Hein, on ne sait pas. Mais une fois la machine mise en route, Elisabeth Borne a martelé un mot.
La priorité, pour moi, c'est le dialogue. Ma méthode, c'est le dialogue, du dialogue. Laisser la place au dialogue, sa volonté de dialoguer, avec l'objectif d'avoir du dialogue.
Et à force de marteler le même mot, ce qui devait arriver s'est produit, elle lapsusito, le lapsus.
Je vous dis, moi, c'est la voie que je privilégie et le dialogue ne viendra pas de notre côté.
Le dialogue.
Pardon, le dialogue.
Oui.
Le blocage ne viendra pas de notre côté.
J'ai bien compris.
C'est un peu malheureux. En tout cas, BFM était vraiment très fier d'avoir la première ministre en plateau. Ils n'ont pas hésité à casser l'antenne pour nous tenir au courant minute par minute de ce qu'elle faisait.
On veut s'entraîner à dévier les astéroïdes pour être prêt le jour où la Terre sera vraiment menacée. Alors attendez, un instant quand même, une image en direct avant de trouver l'astéroïde.
Le temps de vous laisser vous diriger vers le mur.
On est terre à terre aussi parfois, c'est Elisabeth Borne qui vient d'arriver dans les locaux de BFM TV.
Et oui, priorité au direct, elle vient d'arriver dans les locaux. En voilà la breaking news et ça a continué comme ça jusqu'à 8h15.
Le jour où la Terre sera vraiment menacée. Alors attendez, un instant quand même, une image en direct.
Pardon, Elisabeth Borne qui vient d'entrer dans l'ascenseur de BFM TV et qui appuie sur le bouton direction les studios.
Priorité au direct évidemment, regardez ces images.
Et Elisabeth Borne qui est en ce moment à la machine à café de BFM TV en train de commander un potage à la tomate. Sans crouton.
Priorité au direct.
Oui, et en ce moment même, sur ces images en direct, vous voyez la première ministre Elisabeth Borne se rendre au water pour ce qui semble être la petite commission. Ah non, c'est la rose. La rose.
Oh non.
Bon, revenons à nos histoires d'astéroïdes.
Oh non. Oh non. Oh non. Qui a rajouté ce... C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Oui, c'est un truc à... Elisabeth Borne qui a annoncé au cours de l'interview que le prix du paquet de cigarettes va augmenter. Le 13h de TF1 est allé annoncer la nouvelle aux Français et certains feraient bien d'arrêter.
C'est 4 centimes, c'est énorme, mais les gens ils fumeront quand même, ils achèteront quand même. Ou alors ils achèteront les cigarettes qui sont pas d'ici, qui viennent d'Espagne, de je sais pas où. Et les payent moitié prix.
Non, non, sinon on arrête de fumer les deux.
Les Marseillais qui n'ont pas failli à leur réputation d'exagérer un poil la réalité. Je rappelle que le paquet pourrait augmenter de 70 centimes. Voici la réaction d'un Marseillais.
C'est trop. On était à 200 euros par mois, on se retrouve à 500 euros de clope.
Et alors non, là, même Bertrand Renard est formel, les calculs ne sont pas bons, monsieur. Et puis sans transition, cette prouesse technique réalisée aujourd'hui en direct sur LCP, ils avaient dépêché non pas un, mais deux journalistes à l'Assemblée pour effectuer, et c'est une première dans l'histoire, un duplex à très exactement un mètre de distance dans la même pièce. L'arrière-plan le prouve.
Bonjour Stéphanie Despierres.
Bonjour. Début janvier, début février.
Alors, l'audition ne devrait pas tarder, je vous le disais en quelques mots.
Mais vous êtes à côté, quel est l'intérêt de faire un duplex à deux? Enfin bon, voilà, quand la technologie est au service de rien, c'est émouvant. Et on referme ces actualités avec une musique qui devrait se lancer. Et là, je fais semblant d'être surpris. Quoi? Oh! Un cadeau, non, c'est trop sympa. Alors que c'est pas Noël et c'est même pas mon anniversaire, mais c'est simple, c'est vraiment pour moi? Bon, ok, je l'ouvre. Un nouveau jingle.
Bonjour Bertrand Chanoroy.
Bonjour les jeunes.
Et vous donc, Valérie Pécresse est de retour. Pendant que les Républicains s'entretuent pour savoir qui va prendre la tête du parti ce week-end, elle a décidé de se la mettre à l'envers, sa tête. Elle a été intronisée dans la confrérie du vin de Suresnes. Et allez hop, cul sec, un de plus qu'Éric Ciotti n'aura pas. Mais on connaît le dicton, un verre ça va, deux verres, bonjour les dégâts. Résultat, quelques heures plus tard.
C'est quand même assez technique là, on sent.
Il faudra une minute à Valérie Pécresse pour monter cet étage. Installée dans le Vertimove, ceinture attachée, la présidente de la région Île-de-France découvre le mécanisme de ce monte-escalier électrique.
Voilà, she's alive mais pas en pleine forme non plus. Heureux de la retrouver en tout cas, bonne soirée.
Ce nouveau jingle. Merci chère Catherine, merci Michel, tête de la Michaudière pour Lorsque l'enfant paraît, c'est signé André Roussin. Merci beaucoup Stéphane, merci Sofiane.
Merci à vous.
Est-ce qu'on a besoin de parler encore de Sous sans brise qui cartonne déjà sur Netflix? Oui, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs, tout de suite sur France 5, un documentaire sur deux couturiers stars, Olivier Rostin qui rapille et Jean-Paul Gaultier. Nous on se retrouve demain, 19h en direct. Ciao, ne regardez pas comme ça Patrick. Bisous, à demain. Ciao.